Radio Okapi.
Les déplacés de Kouamout vivant à Bandoudouville continuent de mourir. Déjà près de 100 personnes ont perdu la vie parmi les déplacés du site de Malebo, affirme le président du comité des déplacés. Le ministère provincial des actions humanitaires du Kwilu trouve que la crise de Kouamout est oubliée par le gouvernement congolais qui ne vient pas en aide à ces personnes. Si les arbres et les oiseaux ont droit à la vie, ce n'est malheureusement pas le cas pour les Congolais, notamment ceux qui sont dans l'est de la RDC. Message de l'opposant Moïse Katumbi à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Message publié hier samedi sur son compte X. Professeur Kabea Chinkuku, enseignante des sciences économiques dans plusieurs universités et notre invité, y reconnaît que le pays, la RDC, a fait quelques pas en arrière depuis l'époque de son accession à l'indépendance. Bonjour à tous. D'abord les nouvelles des différentes lignes de front au Nord Kivu. Accalmie ce dimanche 30 juin sur toutes les lignes de front dans les territoires de Masisi et Nyiragongo. Hier samedi, de combats ont opposé le M23 appuyé par l'armée rwandaise au combattant Wazalendo. Un certain général autoproclamé Maachano Arimeka dans le groupement de Oufamandou Premier, chefferie des Baoundé des territoires de Masisi. Les sources de la société civile dans la chefferie des Baoundé affirment également que des tirs sporadiques qui n'ont duré qu'une dizaine de minutes ont été entendus ce dimanche matin dans le secteur de Kimoka, au nord-est de la cité de Sake, toujours sous occupation du M23. Dans le territoire de Nyiragongo, la situation reste calme et chaque belligérant maintient et consolide ses positions selon la société civile locale. Dans la province du Kwilu, le nombre des décès enregistrés parmi les déplacés de Kouamout vivant à Bandoundouville ne fait que s'accroître. À ce jour, on compte déjà près de 100 morts parmi les déplacés hébergés au site de Malebo, selon le président du comité des décès déplacés. Ces personnes en détresse sont dépourvues de tout et ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire. Pour le ministère provincial des actions humanitaires du Kwilu, la crise de Kouamout est oubliée par le gouvernement congolais qui normalement devrait venir en aide à ces personnes. Irène Bomaluzolo.
Les conditions de vie des déplacés de Kouamout vivant aux entrepôts du marché central de Malebo à Bandoundouville ne cessent de se détériorer. Il s'agit de ceux qui ont fui les atrocités de la milice Mobondo à Kouamout à la suite du conflit intercommunautaire dit Tekeyaka. Déjà 97 décès sont enregistrés parmi eux depuis le début, rapporte leur président François Tabuku. Cela à cause de l'absence de prise en charge alimentaire et sanitaire adéquate, malgré les multiples appels à l'aide sans réponse holistique. Jérémy Biquet, le directeur de cabinet du ministre provincial des actions humanitaires du Kwilu, parle d'une crise humanitaire oubliée par le gouvernement alors que la situation reste préoccupante.
C'est une crise oubliée. C'est une crise oubliée parce que les interventions n'ont pas suivi, n'ont pas été à la hauteur des besoins. Ça fait 2 ans, nous avons encore des personnes qui n'ont pas des moyens de subsistance. Nous avons des cas de maladies qui ne sont pas prises en charge dans cette condition. On devrait les accompagner, on devrait les soutenir pour qu'ils puissent se réintégrer même dans la vie courante.
D'après le ministère provincial des affaires humanitaires qui redoute les pires, le Kwilu compte à ce jour plus de 36 000 personnes déplacées vivant notamment à Bandoundouville, à Kikwit et dans les territoires de Bagata. Irène Mboma, Bandoundouville, Radio Okapi.
Au sud Kivu, l'accident survenu hier sur la route nationale numéro 5 Bukavu-Luhinja endeuille toute la province du sud Kivu. Le bilan est revu à la hausse. Ces dimanches, on parle de 12 morts, plusieurs blessés parmi lesquels des cas graves. L'exécutif provincial assure la prise en charge des blessés et des funérailles des personnes décédées. Jean Kassami.
Les corps des victimes seront conduits à leur dernière demeure dans la chefferie de Luhinja en territoire de Mwenga ce dimanche. Le gouvernorat des provinces s'engage à prendre en charge tous les frais funéraires. Après ce drame, tous les 12 corps ont été acheminés dans les morgues des hôpitaux proches du lieu de l'accident dans le groupement de Moudoussa à Kabare Sud. Le vice-gouverneur s'est rendu sur les lieux. Au nom du gouvernement provincial, Jean-Jacques Elakano a pris l'engagement de tout prendre en charge jusqu'aux funérailles prévues dans les milliers d'origines des victimes à Luhinja, à environ 60 km à l'ouest de la ville de Bukavu. S'agissant des blessés, l'exécutif provincial demande aux hôpitaux de leur administrer des soins aux frais du gouvernement. Des témoins rapportent que l'accident qui endeuille la province est la conséquence d'une crevaison de pneus. Le chauffeur roulait à vive allure. Les autorités conseillent aux conducteurs de modérer la vitesse. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. L'opposant Moïse Katumbi se demande s'il est vraiment opportun de célébrer cette journée, vu, selon lui, la souffrance globale dans laquelle vit le Congolais. Il l'a dit hier samedi dans un message sur son compte X à partir de sa résidence. Si les arbres et les oiseaux ont droit à la vie, ce n'est malheureusement pas le cas pour les Congolais, notamment ceux qui sont dans l'est de la RDC, affirme Moïse Katumbi dans ses propos recueillis par Alain Hirong.
Le Congolais est devenu mendiant dans son propre pays. Le Congolais n'a plus de route, n'a plus d'électricité, de l'eau potable. J'étais en train de voir les oiseaux en train de grignoter. Mais mes frères et sœurs dorment dehors. Mes frères et sœurs sont en train d'être tués tous les jours à l'est du pays. Et j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, trop de promesses, trop de discours inutiles. Mais on oublie son peuple. Et nous devons tout faire, comme le pape Jean-Paul II l'avait dit, n'ayez pas peur. Nous allons nous mettre ensemble pour que cette situation change. Nous sommes un pays riche, mais la population est très pauvre. Si je pense à la joie de nos pères d'indépendance, quand on a eu l'indépendance en 1960, c'était des hommes valeureux. Ils aimaient leur pays. Aujourd'hui, je me pose la question si nous pouvons encore fêter le 30 juin. Si je pense à mes frères et sœurs de l'Est qui sont en train de mourir chaque jour.
Clôture vendredi à Kolwezi, dans le Lualaba, de la session de mars à l'Assemblée provinciale. À cette occasion, son président a passé en revue la situation de la province au cours de cette période. Sur le plan sécuritaire, par exemple, il a déploré la recrudescence de l'insécurité, aussi bien dans la ville que dans la périphérie de Kolwezi. Il a interpellé les gestionnaires sur cette question sécuritaire. Jean-Marie Kaseya est dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Il convient de signaler qu'au cours de cette session, la province a connu plusieurs cas d'assassinats, surtout dans la ville de Kolwezi et ses périphéries, et cela prouve à suffisance que cette situation devient une priorité. Nous devons être vigilants afin que la population puisse pallier librement à ses occupations à travers toute la province. Si aucune mesure drastique de politique criminelle n'est prise à l'entrée parlementaire de septembre, l'Assemblée provinciale prendra ses responsabilités à la loi de certains gestionnaires dans ce domaine. Car nous n'accepterons plus de rester oisifs face à un problème paradoxalement banal et dangereux à la fois.
L'Assemblée provinciale du Maniema se félicite, elle, de clôturer la session ordinaire de mars sous une note de 90% de traitement des points prévus pour cette session. Lors de la plénière de clôture de la dite session hier samedi, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema a félicité ses collègues pour le travail abattu avant de les inviter, durant les vacances parlementaires, à récolter les vrais problèmes des populations de leur circonscription électorale. Un extrait du discours du président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Claude Makonga Toboka Iki, choisi par Florence Kizalunga.
Je suis satisfait du déroulement de cette session essentiellement législative, car la totalité des points inscrits au calendrier des travaux ont été traités, excepté le point relatif à l'examen et approbation du gouvernement provincial et à l'investiture des ministres provinciaux, soit 90% des matières prévues. J'en profite pour féliciter les honorables députés de la qualité du travail abattu Il était prévu au regard du calendrier de cette session les points relatifs à l'examen et approbation du programme du gouvernement provincial et investiture des ministres provinciaux. Compte tenu de la procédure judiciaire qui a été mise en mouvement, cette matière n'a pu être traitée et pourtant d'une importance absolue pour que la province ait un air nouveau du développement. C'est pourquoi la convocation d'une session extraordinaire s'avère indispensable.
Au Nord Kivu, une vingtaine de professeurs des universités ressortissants du Sud Kivu appellent les nouveaux dirigeants de leur province à plus de responsabilités. Réunis dans un colloque hier à Goma, ces professeurs œuvrant dans différentes institutions universitaires de Goma disent encourager notamment l'élection d'un de leurs collègues professeurs à la personne de Jean-Jacques Pourroussi à la tête du Sud Kivu comme gouverneur. En plus de lui, promettre leur soutien, ces enseignants disent s'attendre à l'amélioration de la situation socio-économique de la province du Sud Kivu. Professeur Jean-Pierre Kasuku Kaouyege est le porte-parole adjoint du dit colloque. Ses propos sont recueillis par Bernard Danyangi.
Le colloque des professeurs ressortissants du Sud Kivu vous présente les sincères félicitations pour votre accession aux charges de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sud Kivu. À travers votre gouvernement provincial, nous pensons que la province du Sud Kivu va recouvrer sa renommée d'antan à travers les attentes de la population. Entre autres, la sécurisation des personnes et de leurs biens, l'assainissement de la ville et la lutte contre la destruction de l'environnement à travers des constructions anarchiques qui la ternissent, la lutte contre les tracasseries routières et autres pour une population fortement paupérisée, l'amélioration des infrastructures routières, la lutte contre les antivaleurs et le clientélisme, la promotion de l'élite pour le bien de la province et enfin, une utilisation rationnelle des ressources pour le bien de la population de la province. Nous vous garantissons que nous ne ménagerons aucun effort dans le soutien qui pourra être apporté pour plus de performances de votre gouvernement.
Le mouvement Justice en Action, membre du réseau Pona Congo, a lancé officiellement hier à Kinshasa une campagne de 15 jours d'activisme. C'est pour la sensibilisation sur le bon usage des biens et finances publiques. Selon Emmanuel Mabunguta, membre de ce réseau, il est question d'interpeller les dirigeants congolais et les institutions de la République à plus de responsabilité et à l'arrêt de la corruption et des détournements. Le mouvement Justice en Action pense qu'il est important que les citoyens ainsi que les dirigeants congolais comprennent l'impact négatif de ces pratiques sur leur vie quotidienne et sur le développement du pays. Emmanuel Mabunguta est dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La campagne 15 jours d'activisme pour la sensibilisation sur le bon usage des biens et finances publiques de l'État consiste à demander à la population d'interpeller le nouveau gouvernement sur le respect strict des textes légaux sur les finances publiques et la passation des marchés. Elle consiste aussi à interpeller les institutions du pays sur la nécessité d'une réduction du train de vie des institutions pour une orientation efficiente de nos ressources vers des secteurs rentables afin d'assurer une distribution équitable des ressources du pays. Et en dernier lieu, elle consiste à la sensibilisation, encore à l'interpellation de la population sur le respect et la protection des biens et finances publiques de l'État. Il est inconcevable pour un pays comme le nôtre que nous puissions constater presque chaque mois des détournements en cascade, des dénonciations de corruption en cascade, la surfacturation des projets, que les biens immobiliers de l'État sont occupés de manière illégale par des privés, de constater plusieurs griefs, par exemple les recours à plusieurs reprises des marchés publics de gré à gré. Il est inconcevable pour nous à ce stade de constater les conflits d'intérêts dans plusieurs procédures qui concernent les finances publiques de l'État.
Cette campagne, qui vise à encourager la transparence dans la gestion des ressources de l'État, va du 1er au 15 juillet 2024. La ville de Bunia en Ituri fait face à un problème d'insalubrité qui inquiète de nombreux habitants et organisations en charge de l'environnement. Des sachets, des bouteilles et des déchets sont jetés partout, même sur le boulevard de Libération au cœur de la ville. Le maire de la ville de Bunia promet des sanctions contre ceux qui sont à l'origine de l'insalubrité et boycottent les travaux communautaires chaque samedi à Bunia. Aminata Moussaïdizi Kitambala.
Les artères principales de la ville de Bunia sont parsemées de déchets visibles à certains endroits. La voirie urbaine modernisée est propre à certains endroits et ailleurs, des couches de sable ont envahi la chaussée. À d'autres endroits, des sachets, bouteilles plastiques, verts et des immondices inondent des caniveaux et même le boulevard. Les commerçants qui travaillent aux environs déplorent la léthargie des services spécialisés. Le coordonnateur de l'organisation Ville Propre attribue cette insalubrité à l'insuffisance ou modicité des moyens fournis par les autorités municipales pour assainir toute la ville, Macky Dieudonné.
Pour dire que non, dans ces contrats, on a oublié un aspect des frais d'entretien de ces routes-là. Parce que partout, ça s'applique à travailler. Vous trouverez que non, le rythme des balayages ne suit pas le rythme des travaux d'asphaltage. Tout cela, c'est parce qu'on est moins nombreux. Et pour qu'on soit nombreux, il faut des moyens.
Le maire de la ville de Bounia appelle la population à respecter le travail communautaire, communément appelé Salongo. Il promet des sanctions sévères aux récalcitrants en vue de lutter contre l'insalubrité dans la ville. Le commissaire supérieur principal, Mbouiko Labosco, annonce aussi certaines mesures d'accompagnement, dont l'installation de poubelles publiques au carrefour du centre-ville. Bounia, Aminata Moussaïdi Zikitambala, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 18 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans plusieurs attentats suicides hier samedi dans la ville de Gwoza, dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Parmi les victimes, des enfants, des hommes, des femmes et même des femmes enceintes. Boko Haram s'était emparé de Gwoza en 2014 et l'avait déclaré califat après s'être emparé d'une partie de l'état de Borno. La ville a été reprise par l'armée nigériane avec l'aide des forces tchadiennes en 2015, mais le groupe djihadiste continue de lancer des attaques depuis les montagnes surplombant la ville à la frontière avec le Cameroun. Boko Haram continue de mener des raids aussi dans la région, tuant les hommes et enlevant les femmes qui s'aventurent hors de la ville à la recherche du bois de chauffage.
L'invité.
Professeur Kabeya Chikuku, enseignant des sciences économiques dans plusieurs universités, se remémore la date de l'accession de la RDC, alors Congo, à l'indépendance. Lors d'une interview accordée à Radio Okapi, il reconnaît que le pays a fait quelques pas en arrière depuis cette époque. Toutefois, il encourage les Congolais à travailler avec ardeur pour combler ce retard. Kabeya Chikuku exhorte ses compatriotes à éliminer les antivaleurs telles que la corruption, le tribalisme, le népotisme et autres comportements nuisibles qui entravent la progression de la RDC vers un avenir prospère. Professeur Kabeya Chikuku répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, professeur Kabeya Chikuku.
Bonjour.
Quel souvenir gardez-vous encore de la date du jeudi 30 juin 1960? Et à l'époque, vous aviez quel âge?
À l'époque, j'avais 17 ans. Jeune adolescent, congolais, collégien. Et j'étais au Kassai.
Précisément dans quelle cité, quelle ville?
En Gandajika. Ça me rappelle le... C'était une journée mémorable, parce qu'on ne savait pas, on ne s'imaginait pas que le soleil pouvait se coucher ce jour-là. J'en étais conscient, j'ai observé le soleil, il s'est quand même couché. Mais c'était une journée mémorable, parce que nous avons suivi par la radio tout ce qui se déroulait à Léopoldville, et depuis l'arrivée du roi Baudouin, mais je peux dire, même avant l'arrivée du roi Baudouin, les 2 semaines qui précédaient étaient des semaines intenses dont nous gardons un souvenir très attachant.
Professeur, quels sont selon vous les principaux facteurs ayant conduit à l'indépendance de la RDC, alors Congo?
Principaux facteurs, je crois qu'il y en a un qui est au devant de la scène, c'est que nous étions au sortir du plan décennal. Parce qu'il y a eu un plan décennal qui a commencé en janvier 1949 et qui a été exécuté jusqu'à janvier 1958. Le plan décennal. Ce plan décennal a été celui qui a construit le Congo, les infrastructures, les bâtiments, ainsi de suite. Qui a construit des écoles, qui a construit des hôpitaux, qui a construit 36 choses. Mais c'était grandiose, c'était immense. Mais c'était insuffisant pour les Congolais. Les Congolais avaient besoin de leur propre liberté. Ils avaient besoin de leur propre souveraineté pour peser dans la balance, dans la marge collective de construire notre propre destin. Un destin de grande nation et d'un peuple libre.
Si on vous demandait d'adresser un petit bilan des 64 ans de l'indépendance de la RDC sur les plans politique, économique, voire social. Que diriez-vous?
Je dis, il y a des pans entiers où nous sommes descendus. Mais cela ne doit inquiéter personne, surtout pas la jeune génération, parce que la durée sur laquelle un peuple peut se reprendre et reprendre son destin en main, cette durée n'est pas la durée à confondre avec la durée d'un individu, avec la vie d'un individu. Les peuples comptent des siècles. Les peuples comptent des demi-siècles. Les peuples comptent des décennies.
Professeur Kabeya Tchikoukou, nous vous disons merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.